Bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me présenter, vous me connaissez tous. Il n'y a pas de nouveau. J'ai besoin de me présenter, peut-être vous. J'ai prénom, voilà. Je m'appelle Christine, je suis l'épouse de Jean et puis je fais partie de cette communauté. Mon thème pour aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais je pense que quand on est réunis comme ça devant le Seigneur, Dieu, il utilise des choses que nous connaissons déjà pour découvrir un autre aspect de sa volonté ou de son œuvre dans nos vies. Alors, ce thème s'intitule La nouvelle naissance et l'unité du corps de Christ. On va commencer par le chapitre de Jean 3, donc l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, si je vais lire. C'est une histoire de Nicodème et Jésus. Vous connaissez tous déjà ce récit. Donc, je lis premier verset et jusqu'au 6. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, nul, s'il n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Je m'attarde surtout sur le verset 3, où il est question de naître de nouveau. Et puis le sixième verset où Jésus précise que ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je pense que déjà là, on a quelque chose à se dire, et même si on s'arrête là. La question que Nicodème s'est posée, peut-être l'un de vous sera posée, moi aussi, mais Jésus lui a donné la réponse et je pense que Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus voulait lui dire. Comme le jeune riche, je pense que Nicodème, il était aussi fidèle à la loi et on trouve que dans ce récit, Jésus ne lui fait aucun reproche pour dire qu'il y avait d'autres problèmes par rapport à sa foi et son comportement vis-à-vis de la loi. Et ce que Jésus lui a révélé, c'est qu'il lui manquait quelque chose, comme c'était le cas pour le jeune riche qui demandait. Il disait à Jésus qu'il fait tout, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et il a demandé à Jésus: qu'est-ce que je peux faire pour avoir le royaume de Dieu. Et je pense que même si ce n'est pas explicité, donc ce n'est pas précisé ici, on pourrait se demander pourquoi Nicodème, s'il était fidèle à la loi, pourquoi il est venu de nuit et demander, donc s'adresser à Jésus pour lui dire comment il le trouve et personne d'autre pourrait accomplir les œuvres qu'il a accomplies s'il ne vient pas de Dieu. Il savait dire qu'il trouvait Jésus et puis il sentait que Jésus, il avait quelque chose de particulier qui touchait le besoin de Nicodème. Je pense qu'il avait quelque chose qui le travaillait, qui a fait qu'il est venu voir Jésus. Pour le jeune riche, Jésus lui a dit vraiment, il a touché au problème qu'il avait. Il ne le savait pas. Qu'il fallait qu'il aille, c'est pas dans nos thèmes d'aujourd'hui, mais qu'il fallait qu'il aille vendre sa richesse et puis et puis distribuer ses biens aux pauvres et puis qu'ils suivent Jésus. Et on se souvient la réaction du jeune riche. Ici, Nicodème, Jésus aussi l'a touché au problème qu'il voyait. Qu'il y avait quelque chose qui manquait chez Nicodème. Il fallait qu'il comprenne ce que ça veut dire naître de nouveau. Le rôle de Jésus, donc le fait que Jésus est venu sur terre, qu'est-ce que cela voulait dire pour Nicodème, qui était fidèle à la loi? Alors, il s'est posé la question. Il se demandait comment un homme adulte déjà pourrait renaître. Il était déjà adulte, il ne comprenait pas ce que Jésus voulait lui dire. Mais le sixième verset dit qu'il y a une réponse qui dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je pense que peut-être c'était encore difficile pour Nicodème de comprendre. En partie, il pouvait comprendre ce qui est né de la chair, mais naître de l'esprit, peut-être ça lui paraissait bizarre. Alors, la question que Nicodème s'est posée, peut-être beaucoup de gens se posent la même question. Mais lui, il a demandé à Jésus comment, il n'a pas demandé pourquoi. Comment ça se fait qu'un homme adulte comme Nicodème, on lui parle de naître de nouveau. Mais ce n'est pas la question. Donc la question que moi je me pose maintenant, c'est pourquoi faut-il naître de nouveau? Pourquoi Jésus il a insisté sur cette nécessité de naître de nouveau? C'est la question que je me pose maintenant. Ce n'est pas la même que Nicodème. Mais je pense que tout le monde peut-être a une réponse. Est-ce que il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait me donner la réponse? Une petite réponse comme ça. Pourquoi il faut naître de nouveau? On fait la classe. Vous êtes mes élèves maintenant, alors que l'un de vous essaie de me répondre. Merci. Je pense que.
Et surtout parce que Jésus le dit, il exige qu'on doit naître de nouveau.
Jésus annonce une nouvelle alliance, qui peut passer par Jésus, par la nouvelle naissance.
Oui.
Que l'ancien a eu.
Oui.
Parce que l'ancien a été basé sur le fait
de la loi.
Merci beaucoup. Toutes vos réponses sont justes.
Si nous allons au verset 6, que tout ce qui est humain est humain.
Et oui.
David, dans deux de ses psaumes, il dit parmi les humains, il n'y a personne qui est juste. Donc, on a simplement zéro chance d'être avec Dieu.
Oui. Alors, on va voir aussi la réponse que Paul a donnée à laisser dans ses épîtres, surtout dans les épîtres aux Romains. Dans l'épître aux Romains 5, les versets 12 au 14, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et donc c'est la réponse à cette question, et vous venez de donner quelques-unes, et on regarde aussi la réponse de la part de l'apôtre Paul. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, d'ailleurs tout ont péché. Car jusqu'à la loi, là on entre chez le monde de Nicodème, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et bien que le péché ne puisse être sanctionné quand il n'y a pas de loi, le verset 14 nous dit, pourtant, d'Adam à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression identique à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Et puis aussi, Romains 3, merci beaucoup Valérie. Romains 3, verset 19 jusqu'au 23, on voit aussi ce que Paul en dit par rapport aux conséquences du péché qui a fait que on peut pas, donc ça nous empêche d'être héritiers du royaume et de Dieu. Donc, or, nous savons que tout ce que dit la loi Il le dit à ceux qui sont sous la loi, en fait que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Le monde entier. Verset 20. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par ses œuvres de la loi. Je pense qu'ici peut-être il y a une réponse pour Nicodème. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Dans ce cas, on pourrait comprendre le rôle de loi comme pédagogique ou pédagogique pour faire comprendre, révéler aux gens le péché. Verset 21. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Le verset 3 correspond à ce que vous venez de dire. Paul dit, car tout ont péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Donc, depuis que Adam a désobéi, et que le péché est entré dans le monde, tout le monde est pécheur. Donc la loi est venue pour révéler ce péché, et puis Jésus est venu pour vaincre sur le péché, afin qu'il nous rende libres. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Alors, si nous reprenons un bout de verset 6 du chapitre 3 de Jean, que nous venons de lire, donc ce qui est né de la chair est chair, on voit souvent que la Bible, comment je formule ma phrase, donc d'après le statut d'homme pécheur, la Bible nomme souvent un homme pécheur d'une manière suivante, donc soit il est charnel, soit il est l'homme naturel. Je pense que ça, ce n'est pas nouveau pour vous, ces termes. Peut-être que je ne vais pas prendre le temps de lire tout ça, mais si on regarde par exemple 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, « Pour moi, frère, je n'ai pas vous parlé comme à des hommes spirituels, donc c'est Paul qui parle, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. » On parle maintenant, vous souvenez que mon thème, c'est la... C'est la nouvelle naissance et l'unité du corps. Je vais arriver sur ce que je vais vous dire. Donc, je continue ma lecture au verset 2. « C'est dire que je vous ai fait boire, non la nourriture solide. La nourriture solide. Vous ne l'auriez pas supportée, mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui, car vous êtes encore charnel. » Donc, je m'attarde sur ce terme de charnel. Et puis, si on regarde là où on nous parle de l'homme naturel, c'est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » C'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, je voulais juste vous parler de ces deux aspects de l'homme pécheur. Dès que le péché a l'emprise sur nous, on est ces êtres nés de la chair qui agit charnellement, si ça se dit, ou naturellement. C'est si on les met ensemble, tout simplement, on peut dire l'homme pécheur. Et les caractéristiques de cet homme, l'épître aux Galates nous le dit bien, chapitre 5, verset 19 ou 21, je pense que vous savez déjà tous ces paroles. On les connaît, les œuvres de la chair. Là, peut-être en les citant, on pourrait se poser la question par rapport là où on en est ou comment on combat tous les jours avec ces œuvres de la chair dans nos vie quotidienne. Donc, il y a la libertinage, impureté, débauche. Verset 20, il y a idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissensio, faction. En tout cas, je m'excuse, peut-être j'ai utilisé la Bible Tob. Si jamais les versets vous paraissent bizarres, j'ai été fidèle à la Tob pour ne pas mélanger Louis Segou ou autre chose. Peut-être que ça sonne autrement dans les oreilles, mais voilà. Mm-hmm. Le verset 21 continue la liste. Donc, il y a des envies qu'on trouvait chez un homme. dans les œuvres de la chair. Donc, il y a des envies, il y a beuverie, il y a ripaille. Ça, c'est nouveau pour moi. Et autre chose est semblable. Donc, les auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. La liste, il y a beaucoup de... Dans la Bible, il y a beaucoup de caractéristiques, des œuvres de la chair. On peut peut-être, si on avait le temps, on pourrait aussi lire. Là. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans les deux chapitres de 1 Corinthiens. Donc, les chapitres 5, 6, quand vous aurez le temps, vous allez les lire. Alors là, on peut se demander ces communautés-là, comment ils pouvaient vivre avec toutes ces choses en tant que vraiment les hommes et les femmes de Dieu. Mais on voit vraiment que la chair, elle est là, elle est vivante parmi les enfants de Dieu. Donc, moi, je ne vais pas dire ça parce que ça ferait long. Mais quand vous aurez le temps, vous allez lire toutes ces manifestations des œuvres de la chair. Alors, j'arrive à la nouvelle naissance. Et puis, on reprend à la partie B du verset 6 qu'on a vu de l'évangile de Jean 3. Donc, là où on a dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Premier épître à Jean, chapitre 3, verset 9, dit ceci aussi. C'est comme j'appuie sur ce petit verset. Il dit, quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. Peut-être sans parler beaucoup de choses, et on peut se demander est-ce que c'est possible qu'on vive ça vraiment, sans plus pécher. C'est une question que je me pose, mais si la Bible dit que quelqu'un qui est né de Dieu ne peut plus pécher, je pense que c'est possible. Peut-être j'exagère, chacun peut interpréter ça comme il veut, mais si on a Jésus en nous et si on a le Saint-Esprit, c'est là où le combat des enfants de Dieu prend du sens. On a cette responsabilité de nous définir en tant qu'enfants de Dieu, de dire oui, on est dans la chair, on est dans cette chair, mais à qui il faut obéir. C'est là où on doit être toujours conscient ou de réaliser là où on en est par rapport à notre façon de vivre. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, ce que je fais, comment je réagis, c'est je réagis en tant qu'un enfant ou quelqu'un qui est né de Dieu ou toujours dans ma nature humaine. Donc c'est là où on est, là où il est en jeu de dire oui, on est toujours dans la chair, mais on est délivré de cette chair grâce à la croix de Jésus. Et puis ça nous défie par rapport à notre parcours. Alors je vous lis 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est Paul qui dit, c'est pas nouveau aussi. Il dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout ça, c'est pas nouveau pour nous. Mais chacun a son monde ancien. Quand on est ici, comme je l'ai dit tout au début, il n'y a rien de nouveau qu'on apprend. Mais ça nous permet de faire le point par rapport à notre vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu qui chemine vers notre destination, de dire si je suis censé de ne plus pécher, si je suis né de Dieu, comment je vis ma vie par rapport à... Vous savez, les cultures ou les appartenances différentes, et puis chacun avait sa façon. Par exemple, moi, en tant que rwandaise ou africaine, il y a la façon de vivre pour moi, en tant que rwandaise. On est différent. Ici, il y a ceux qui sont européens ou suisses. On a des choses différentes qui nous distinguent les uns des autres. Mais une fois qu'on est né de Dieu, ça, c'est considéré comme le monde ancien pour chacun de nous. On ne sort pas de là parce que ça fait partie de nous. Mais comment il faut vivre notre nouveau statut d'enfant de Dieu tout en considérant je vais y arriver, ce passé, ses antécédents. Donc faire le tri de dire ça, j'ai le droit, mais ça, non, par rapport à mon nouveau statut. Mon statut en tant qu'enfant de Dieu. J'arrive et je ne voulais pas lire ça, mais donc au Corinthiens, je ne sais plus, c'est 1 Corinthiens 2, 15. ça nous parle aussi, donc ici, je suis dans la partie de l'homme spirituel. Donc l'homme spirituel, au contraire, juge tout et n'est lui-même jugé par personne. Si on considère cette personne spirituelle, ou cette personne qu'on considère comme une nouvelle créature, on peut le mettre en opposition à l'homme, au vieil homme dont la Bible nous parle. Je pense que ça aussi, ce n'est pas nouveau pour vous, le vieil homme. Voilà. Le vieil homme. C'est cet homme charnel. je regarde là où j'en suis par rapport à mes notes. J'en arrive aux caractéristiques de l'homme qui est né de nouveau. Je m'approche de la fin. Donc, les caractéristiques de l'homme charnel ou naturel, on l'a vu. Et puis, maintenant, on regarde, on essaie de nous souvenir de ce qui caractérise les hommes, qui caractérise les hommes ou l'homme qui est né de nouveau. Je pense qu'on en fait partie. Alors, on va essayer de voir cette liste si correspond à notre vie. Et puis, chacun peut regarder et faire le préparatif pour là où il en est. Galates 5, versets 22 au 24 nous dit « Mais voici le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. » Donc, si je j'énumère ces paroles, et puis pour moi, pour vous aussi, on peut voir, si on parle de l'amour, on le voit d'une manière... Donc, comment la Bible décrit cet amour? Moi, je le cite comme ça, mais si je le cite comme ça, j'essaie de penser, vous aussi, comment je vis l'amour en tant que la Bible définit l'amour des enfants de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu veut nous laisser ce matin pour voir là où on en est en tant que les hommes qui sont nés de nouveau. Donc, le premier fruit, c'est l'amour. Il y a aussi la joie. Si on parle de la joie, par exemple, c'est pas toujours facile d'être joyeux. Mais on dit que c'est le fruit du Saint-Esprit. Et on peut se demander, est-ce que si on n'est pas joyeux, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus avec nous? C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je pense que c'est pas le cas. Le Saint-Esprit peut être là, même qu'on soit triste, parce qu'il y a des épreuves dans la vie, mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous a quittés qu'on ne soit pas joyeux. Mais il faut regarder aussi pourquoi on n'est pas joyeux. Soit c'est après vous, c'est la nature qui prend le dessus. Bon, voilà. Il y a aussi la paix. Cette paix, j'en ai parlé l'autre jour, et voilà, la paix de Dieu. Il y a aussi la patience. Qu'est-ce que la patience? C'est difficile. C'est aussi le fruit du Saint-Esprit, mais chacun peut se dire voir à son niveau vraiment de patience. On a beaucoup de choses dans cette vie qui nous poussent loin vraiment dans notre patience. Et puis des fois, je sais que aussi il y a des moments où je dois demander à Dieu la patience. Vraiment, c'est pas toujours facile. Il y a aussi la bonté. Le mot bonté, je l'aime beaucoup. Et c'est quelque chose de précieux, mais c'est rare. il faut le travailler, il faut cultiver la bonté. Si on parle de la bonté, si on la définit, vraiment, on peut se demander vraiment est-ce qu'on est bon. On est bon, on a cette bonté en tant que fruit du Saint-Esprit. Je pense que ce qui nous pousse souvent à aller vers Dieu, c'est qu'il est bon. Et on sait comment il nous accueille. Est-ce que l'accueil, ce bon accueil que Dieu nous fait, c'est la même chose pour nous vis-à-vis des autres personnes? Donc, je pense qu'il nous est facile de parler comme ça, vite fait, dire que ce sont des fruits du Saint-Esprit. Mais quand on s'y attarde, on se dit qu'on a un défi en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, la bonté, c'est quelque chose qui me défie, mais j'ai envie vraiment d'être bonne. J'ai envie d'avoir la bonté comme fruit du Saint-Esprit, parce que ça donne un sens à notre vie, ça fait la différence entre les gens de Dieu et les gens du monde. Il y a aussi la bienveillance. Je pense que ça va de pair avec la bonté. Il y a aussi la foi. Le verset 23, il nous parle de douceur. La douceur, j'aime beaucoup la douceur. C'est quelque chose, vraiment, cet aspect de bonté, cet aspect de... La patience, quand je parle de la patience, c'est par rapport aux autres. Mais quand je parle de la bonté, de la bienveillance, de la douceur, c'est quelque chose qui fait que vraiment tout le monde peut avoir envie de venir vers moi. Ce que je reflète à l'égard des autres, ça montre ce Dieu qui est en moi, qui est bon, qui est bienveillant. Et puis ça, vous savez, des fois on a peur de s'approcher de quelqu'un ou de s'adresser à lui. Juste, on a un problème, mais on ne sait pas vers qui on pourrait aller parce que des fois, on a peur. Mais vraiment, ça serait chouette d'avoir ces aspects vraiment de bonté, de bienveillance les uns envers les autres, d'être doux ou douce. Ce qui fait qu'on est comme si on a les bras grands ouverts pour tout le monde qui nous connaît. Et on se sentirait à l'aise pour venir vers nous. Parce qu'on sait qu'on est bon, on est patient, on est bienveillant vis-à-vis des autres. Ces aspects-là, ces attributs, je les aime beaucoup. Et il y a aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses qui nous provoquent. Qui nous provoquent d'une manière ou d'une autre. Qui nous poussent à agir en tant que, comme des hommes naturels. Mais cette maîtrise de soi, c'est quelque chose qui nous a... Nous, on n'en a pas. C'est grâce au Saint-Esprit qui pourrait être avec nous, vaincre cette nature. Et puis, si on est provoqué, on ne peut pas réagir comme tout le monde. Alors, cette maîtrise de soi, vraiment, c'est un don de Dieu aussi. De dire, face à cet événement, face à cette circonstance, oui, il y a quelque chose qui me touche, qui me blesse, mais je dois réagir autrement. Cette maîtrise de soi aussi, c'est un fruit du Saint-Esprit. On en a besoin dans notre vie quotidienne. Alors, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Le verset 24, il nous dit, « Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » On disait tout à l'heure qu'on se posait la question, est-ce qu'on peut vivre vraiment sans péché, comme le verset qu'on a lu nous l'a dit, qu'une fois on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, on ne pêche plus. Alors, ce n'est pas parce qu'on est pris humain, mais ce verset nous donne la réponse que ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair. Alors, crucifier la chair, est-ce que ça se fait une fois pour toutes ou on le fait? Il faut le faire tous les jours, à chaque instant. Donc, cette chair, il faut la crucifier, mais comment? Ça aussi, on n'a pas l'intelligence qui pourrait nous guider. Toujours le Saint-Esprit en nous, c'est à lui de nous montrer comment il faut crucifier cette chair. Parce que c'est pas, il n'y a pas des écoles qui pourraient nous apprendre ça, à part la parole de Dieu qui nous dit ça et ça et ça, vous ne devez pas faire ceci ou cela, mais le fait d'y arriver, c'est être conscient qu'on n'en est pas capable, de demander de l'aide de Dieu et puis essayer d'être attentif à notre homme. À nos impulsions. Si on va faire ceci, est-ce qu'il y a. Je freine des fois face à certaines choses. Je vais dire un mot, je vais faire ceci, je vais réagir. Mais à un moment donné, il faut que je sache qui je suis et comment je dois réagir, comment je dois me conduire. Alors, on arrive à la conclusion. J'aimerais dire juste comme la vie humaine est généralement composée de trois étapes, en commençant par la naissance, puis la croissance et en fait l'âge adulte, la vie nouvelle en Christ présuppose également les mêmes trois étapes, mais ces trois étapes vécues en Christ sont vécues différemment. Par exemple, on peut comprendre la naissance humaine et la naissance aussi spirituelle, c'est des choses, c'est compréhensible, mais à l'âge adulte, par rapport à d'une manière générale, ça suppose on grandit plus, on commence à vieillir, mais si je parle à l'âge adulte par rapport à la vie nouvelle en Christ, je suppose la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Ça c'est en parallèle avec l'âge adulte d'une manière générale. La première étape, on l'a vu déjà, donc naître de nouveau, on l'a vu, c'est déjà la naissance. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on réalise que les croyants sont invités à ne pas en rester à la naissance. Ils sont censés grandir jusqu'à la mesure de la stature parfaite du Christ. Normalement, d'une manière générale, on sait que quand les enfants, donc ils sont petits, ils ont leur nourriture. Et puis, pour qu'ils puissent grandir, on est tous assez grand pour comprendre comment il faut les nourrir afin qu'ils puissent grandir. Alors une fois né de nouveau aussi, on ne peut pas en rester là. Et pour grandir, on a besoin de manger et de boire. Et vous savez, je ne vais pas faire le parce que le temps passe. Vous vous souvenez de Paul qui parlait du lait ou de la nourriture solide. Selon les âges. Selon les âges. Alors, j'aimerais juste insister sur le fait que naître de nouveau, c'est une étape, mais ça ne suffit pas. Dieu nous invite à aller loin. Donc, on doit grandir. Et pour grandir, il faut manger, il faut boire. Et on a la nourriture, et c'est la parole de Dieu. Et Jésus nous a dit qu'il est, il est le pain de vie. Et puis, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous aide dans la vie de tous les jours. Alors là, on peut se demander combien on lit la Bible, combien, ou bien quelle quantité, quel bagage qu'on a à nous en tant que nourriture qui nous aide à grandir dans notre parcours. Là, c'est aussi quelque chose, c'est un défi. Chacun peut se demander combien de temps je lis la Bible. Est-ce que vraiment, face à telle situation, face à tel problème, j'ai quelque chose qui pourrait m'aider pour ne pas réagir comme un enfant. Vous voyez, même dans la vie normale, il y a des adultes qu'on peut traiter d'enfants par rapport à leur façon de se comporter ou de réagir. Alors, si on est censé, d'une manière générale ou normalement, d'agir en tant qu'adulte et puis qu'on se comporte autrement, même sans parler du contexte religieux, on se pose des questions parce que cet homme-là ou cette femme-là n'a pas atteint son âge adulte, du coup, il se comporte comme un enfant. Alors, ça paraît aussi bizarre dans la foi. Si on est né de nouveau, mais on reste enfant, on ne grandit pas, c'est problématique. Alors, voilà, je ne dis pas grand-chose par rapport à comment il faut se nourrir. On est assez adulte pour comprendre ça. Tout simplement qu'on essaie d'y penser dans la vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, comment on fait pour se nourrir, pour grandir et atteindre cette mesure qu'on a vue tout à l'heure, donc la stature parfaite de Christ. Je vais conclure avec l'épître aux Éphésiens, mais avant de lire ça, j'aimerais dire quelque chose parce que le thème, il dit la nouvelle naissance et l'unité du corps, et ce corps, il est Église. Et puis, le corps, d'une manière générale, il est constitué de membres. Les bras, les pieds, et puis ça peut pas, ces membres ne peuvent pas fonctionner s'ils sont malades ou si mon doigt est coupé ou si je suis né avec un handicap, je ne peux pas fonctionner comme quelqu'un normal. Alors, si on comprend le fonctionnement du corps comme ça, et pour que le corps puisse vraiment fonctionner comme il faut que les membres soient en bon état. De sur cet exemple, pour comprendre le corps de Christ composé de membres que nous sommes en tant qu'Église. On est différents, mais l'un représente soit peut-être le bras, l'autre la jambe, les oreilles, pour former le corps de Christ. Et puis, pour former cette unité, le corps, pour fonctionner, il faut que vraiment ces membres se mettent ensemble. Si on monte le bras, si on monte la jambe, le corps aurait de la peine de fonctionner. Donc, pour mieux fonctionner, il faut que ces membres soient en bon état et qu'il y ait unité pour que chaque membre remplisse son rôle. Alors, en tant qu'église, en tant qu'aussi, on est ici église. Voilà, comme ça, petit. Mais dans l'Église, il y a des membres. Je suis membre, vous êtes... Donc, chacun de vous est membre de cette Église. Là où on en est maintenant, on a parlé de la nouvelle naissance, on a parlé de la croissance. Maintenant, à la conclusion, je parle de l'unité du corps de Christ. Et comme on vient de le voir, pour que cette unité est liée, il faut que chaque membre vraiment soit un membre qui fonctionne correctement. Pour fonctionner correctement, il faut naître de nouveau, il faut grandir, il faut atteindre ce stature vraiment de Christ. Là, on est déjà adulte, on est censé travailler correctement parce que Dieu ne nous a pas donné. Quand on était enfant, on avait des petits doigts, on était petits comme ça. On ne pouvait pas demander, par exemple, à un enfant de 2 mois d'aller faire quelque chose. Mais une fois qu'on est adulte, on est censé à remplir vraiment des fonctions pour adultes qu'on ne pouvait pas demander aux enfants. Une fois on a atteint ce niveau adulte, on est censé accomplir les fonctions des hommes adultes. Il n'y a pas, au-delà de l'âge adulte, il n'y a rien. On ne grandit plus, on est censé à remplir vraiment des fonctions que Dieu nous a, juste d'une manière générale. Alors aussi, dans notre vie de foi, il faut atteindre un niveau où on est capable de remplir les tâches ou les fonctions que Dieu nous a destinées. Alors chaque membre, pour faire cette unité vraiment, pour que cette unité ait lieu dans le corps de Christ, il faut que chaque membre atteigne son niveau pour qu'il puisse. Si, par exemple, voilà, j'en arrive là, il faut que chaque membre atteigne son niveau pour que l'unité ait lieu. Vous pouvez alors vous poser la question, dans l'Église, on est différent. On peut avoir des différents niveaux. Il y a ceux qui ont atteint ce niveau peut-être, il y a ceux qui grandissent encore, il y a ceux qui sont petits. Ça aussi, c'est un défi pour l'Église. De savoir les membres qui composent son corps, comment il faut faire pour qu'ils puissent vraiment atteindre ce niveau. Quand j'ai préparé ça, j'ai compris le corps de Christ pour qu'il y ait l'unité. J'ai compris ça comme une pièce de puzzle. Donc, vous voyez, vous donnez la forme, n'importe quoi comme forme au puzzle. Et puis, il y a chaque place plutôt. Dans ce puzzle, il y a une place pour chaque pièce. En tant qu'église, c'est comme un puzzle où chacun a sa place. Ce que le bras peut faire, ce n'est pas la même chose que la jambe. On est différent, on a des tâches différentes. Mais il faut que chaque pièce de puzzle donc, soit dans sa place à elle ou à lui. Et la condition pour entrer dans chaque pièce, c'est cette condition de naître de nouveau. Une fois entré dans sa place de puzzle, quand je voyais ça, je me suis dit, peut-être ça peut arriver que j'ai la volonté de faire partie d'une église et je vais entrer dans ce puzzle, mais n'importe comment. Disons, on a des pièces comme ça, quand on fait des puzzles, vous savez que chaque pièce a sa forme par rapport à la place. Si vous le mettez dans une place qui n'est pas dans la scène, ça ne va pas entrer. Alors quand je voyais ça, je me disais peut-être je peux faire un effort de tailler la pièce pour que ça puisse entrer dans le puzzle. J'ai comparé ça aux façons qu'on peut bricoler quelque chose ou se comporter n'importe comment pour qu'on puisse se trouver la place dans le corps de Christ. Mais il n'y a pas d'autres conditions, il faut naître de nouveau. Et puis cette condition de naissance, j'ai vu ça dans ce pièce de puzzle, ça commence comme un petit point dans la place, comme ça, dans ma place, en tant que Christine est différente, que j'ai des fonctions à remplir. C'est un petit point comme ça, mais qui grandit, pour que ma place dans le puzzle vraiment fonctionne, je grandis, j'atteins ce niveau de croissance, pour que la pièce de puzzle vraiment soit bien faite. J'arrête là, je vais lire. Pour conclure, je ne parle plus. Mais je vous laisse juste ce schéma de puzzle où chacun de vous a sa place et la condition d'entrer dans cette pièce pour fonctionner comme bras ou comme jambes, comme Dieu a donné les dons différents à chacun de nous. Et ces dons, votre don, ce n'est pas le mien. Dieu vous l'a donné pour sa gloire, pour édifier l'Église. Chacun de vous a reçu le sien aussi. Alors, il faut se dire si on est bien dans notre place. Je lis pour conclure. Éphésiens 4, verset 1 jusqu'au verset 14, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Après, vous pouvez regarder aussi, si vous voulez, dans l'Épître aux Hébreux, c'est le chapitre 5 à partir du verset 6 jusqu'à 11 et puis le chapitre suivant aussi. Et puis dans l'épître aussi, premier épître de Jean, verset 6 à 7, ça nous parle aussi de cette unité. Donc les gens qui ont atteint ce niveau, comment il faut vivre. Donc je lis pour conclure. Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole. Monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes, il est monté. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'à bas sur la terre? Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Jusqu'à ce que ce verset 13, j'insiste, vous pouvez le souligner, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Je vais prier. Seigneur, nous avons entendu beaucoup de choses. Je te prie, Seigneur, de nous éclairer par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour mieux cheminer à notre destination. Tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Je te remercie de cette occasion que tu nous as donnée pour nous rappeler notre appel et que, Seigneur, nous puissions réfléchir à notre situation aujourd'hui, là où on en est. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour aller de l'avant. Alors, je te prie de bénir ces paroles. Je te prie de bénir chacun de nous pour pouvoir les mettre en pratique. Donnez-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il nous guide et qu'il stimule notre courage et qu'il nous fortifie pour pouvoir grandir et atteindre ce niveau parfait en toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.